bonjour.
On peut leur lire à eux?
Ouais.
On se met ici.
Vous voulez qu'on vous lise le témoignage? Ça vous irait? Vous restez par là et vous écoutez ce qu'on a à dire?
Ouais.
Mais du coup,
on
vous restez là.
Hein. On veut juste parler en fait. Parler.
Dans l'espace public. Prêt à écouter? En haut là, coucou. Nous sommes ici aujourd'hui car la justice, grand juge institutionnel, censé valoriser l'acte moral et condamner le crime sans appliquer de traitement de faveur, sans subjectivité, sans haine, sans discrimination. Cette justice que nous idéalisons et à laquelle on cède aveuglément notre destin n'existe pas. Le système judiciaire discrimine. Il sentence selon ses propres valeurs, des valeurs issues d'une culture patriarcale, raciste, oppressive. La justice qu'on a appris à craindre depuis l'enfance est un mécanisme despotique qui exerce son pouvoir sans expertise aucune, sans empathie, sans éthique, mais avec une hargne enragée de servir l'élite et d'affaiblir encore et encore les personnes déjà oppressées par cette société malade. Nous sommes présentes car cette justice, grande figure du châtiment, de la punition, acquitte les violeurs depuis trop longtemps, condamnant ainsi les victimes à subir une peine encore plus lourde que celle qu'elles ont traversée. L'impunité totale de leurs agresseurs, la complicité de cette justice à qui elles ont fait confiance, vers laquelle elles se sont tournées pour être protégées, entendues, considérées, pour qu'elles soient entendues, protégées et considérées, pour que leur souffrance, leur peur prennent enfin fin, pour que le criminel ne récidive pas. Cette justice qui exige aux victimes de prouver leur viol, qui réclame d'entendre détail par détail, encore et encore, le récit des personnes violentées, scrutant chacun des mots utilisés pour trouver coûte que coûte la contradiction, l'égarement, la confusion, tandis que le violeur de son côté, libre, lavé de toute suspicion, ricane, car il sait que peu importe la gravité de son crime, la justice le protège. La justice murmure à son oreille que c'est son droit, que le viol ne sera jamais cause d'une condamnation, qu'il peut retourner travailler dans son restaurant, côtoyer ses employés, fréquenter ses amis, continuer à vivre. Un criminel lâché dans la nature depuis un an. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes ici, fortes et en colère, pour soutenir notre sœur qui subit depuis trop longtemps l'incompétence de cette justice, qui se doit depuis un an de prouver qu'elle ne ment pas, qui doit vivre avec ce poids sur les épaules, de ne pas pouvoir divulguer le nom de son violeur pour protéger les autres femmes, car elle risquerait de devoir payer une amende ou pire, aller en prison. Oui, parce qu'il ne faut plus avoir peur de le dire. La justice protège les violeurs. Elle est sale de tous les crimes qu'elle a silenciés. Elle représente aujourd'hui le vice et la corruption. La justice est complice des viols.
Ras le viol ! 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 Ras le viol !
Voici le témoignage de Marion. Mon patron m'a violée. Il m'a fait du harcèlement sexuel, du travail au noir et du harcèlement moral. Ça fait un an que je suis en procédure pénale contre lui. Un an. Le premier soir où j'ai travaillé, il s'est approché de moi et a essayé de m'embrasser. Il m'a dit que j'avais l'air d'une fille facile. J'avais la boule au ventre à chaque fois que j'allais travailler. Je devais payer mon loyer, payer à manger pour mes enfants. Mon ex-mari a pris un avocat pour me retirer la garde de mes filles. Un de ses arguments est qu'il est plus apte que moi financièrement. C'est pour ça qu'il me fallait absolument obtenir un contrat. En même temps, je cherchais un échappatoire pour trouver un autre travail, mais c'était très dur à cause du Covid. Donc j'étais bloquée, j'étais obligée de rester là. J'étais comme dans une toile d'araignée. Il a fait des abus de pouvoir, tout simplement. Tous les jours, il me faisait descendre dans son bureau et il se permettait de me toucher, de toucher mes parties intimes, partout. Il avait une odeur qui me répugnait. Il avait une odeur de renfermé. Du coup, je tournais la tête et il me foutait sa langue dans mon oreille, partout. Il me touchait, il me tripotait.
Le 15 février, il m'a appelé pour me demander de venir pour parler de mon contrat de travail. Il disait vouloir changer d'air et m'a proposé qu'on aille parler autour d'un repas au restaurant. Il m'a dit que j'avais pas à m'en faire et que je serais payée comme si je travaillais. Il me parlait toujours de mon contrat de travail parce qu'il savait que c'est ça qui me tenait à cœur. Il utilisait ça comme le ver de terre sur la canne à pêche pour attraper le poisson. Il me disait que j'allais signer un contrat à 80%. Moi, ce soir-là, j'étais trop contente, en fait. Moi, je pensais que voilà, j'allais enfin obtenir mon contrat, que c'était pas que des blablas. Il commençait à me dire, écoute, je vais te donner ton salaire. Et j'ai répondu, bah ouais, je vous attends dans la voiture. Et il m'a dit, non, non, vous montez, je vous le donne en haut, chez moi. J'ai hésité, mais je me suis dit, il a été correct à l'aller. Je me suis pas alarmée, quoi. Il m'a fait rentrer dans l'appartement, il m'a fait visiter comme un agent immobilier. Il m'a dit, voilà la cuisine. Après, il m'a fait avancer dans le salon et m'a montré une vitrine. Les petits papis, ils aiment bien parler. Bah voilà, moi je suis polie, je vais pas lui dire ferme ta gueule. Moi j'étais là, à l'écoute. Je lui ai demandé où était sa femme et il m'a dit qu'elle était partie à Madrid. Il m'a fait entrer dans sa chambre et il m'a dit, t'es belle, tu me plais, je suis tombée amoureux de toi. Il a commencé à s'approcher, à essayer de m'embrasser. Moi je savais pas quoi faire en fait, parce que j'étais gênée. Alors j'ai fait semblant de tousser et j'ai demandé où étaient les toilettes parce que je savais plus où me mettre. Il m'a dit, c'est en face. J'ai posé mon sac par terre et je suis allée aux toilettes. J'étais dans tous mes états. Je paniquais parce que sa femme était pas là. On était seuls dans l'appartement et je me rappelais de ce qu'il m'avait fait quand même, avant. Je ressors des toilettes, je retourne dans sa chambre et je me baisse pour récupérer mon sac. Je lui dis que je dois y aller. Et en fait, il s'est approché, il a mis sa main dans mes cheveux, il a commencé à me caresser. Je me suis levée, je lui ai dit, mais vous êtes taré? Vous êtes fou? Vous faites quoi, là? Je dois y aller.
Il commence à s'approcher et à me tenir le visage. Il essaye de m'embrasser. Alors moi, je tourne la tête. Et après, comme d'habitude, il commence à mettre sa langue un peu partout. Il commence à me toucher. À ce moment-là, j'arrivais plus à réagir. J'avais plus le contrôle de mon corps, en fait. Je savais plus où j'étais. Mon esprit, il s'est déconnecté de ma tête. Et je comprenais pas. Je comprenais rien à la situation. J'étais choquée. Là encore, aujourd'hui, je comprends même pas pourquoi mon corps, il a réagi comme ça. Parce que moi, j'ai toujours eu du caractère. Du genre bélier, je fonce dedans. Et là, j'avais plus contrôle de rien du tout, quoi. Après, il a commencé à aller de plus en plus bas. En fait, ce soir-là, j'avais une jupe. Et ce connard, il a commencé à mettre, à caresser. Et après, ce connard, il a craqué mon collant. Et il a enfilé ce qu'il devait enfiler, ses doigts. En fait, je serrais mon vagin malgré tout et je disais, ça suffit. Mais il en avait rien à foutre. Il prenait pas en considération mon refus. Malgré les paroles que j'avais, que j'arrivais à sortir, mon corps n'arrivait pas à bouger. À un moment donné, il sort son sexe. Il prend ma main de force pour que je le touche. Et moi, comme je réagissais pas, j'étais comme une morte en fait. Il a lâché l'affaire. Il m'a poussée parce que j'étais au bord du lit en fait. Il a essayé de m'embrasser et j'ai continué à tourner la tête. En même temps, je priais dans ma tête pour que le bon Dieu arrête tout ça parce que je suis croyante à la base. Après, il a commencé avec ses mains à m'écarter le collant, à le déchirer de plus en plus et à mettre mon sous-vêtement sur le côté. Et après, il a enfilé son machin pourri à l'intérieur de moi. Mais je contractais à l'intérieur de mon vagin parce que je voulais pas. Il avait du mal quand il a pénétré. Après, il s'est retiré, il s'est mis au bout du lit et il m'a demandé de lui faire une fellation. Et à ce moment-là, quelqu'un a toqué à la porte. Je sais pas si c'est le bon Dieu qui a écouté mes prières, mais en tout cas, quelqu'un a toqué à la porte. Et il m'a dit de me taire et que je parlais, que si je parlais, que je disais un mot, on sait jamais ce qui pourrait m'arriver. Ses paroles résonnaient dans ma tête comme s'il était drogué, comme s'il y avait un haut-parleur dans la pièce. C'était un de ses employés à la porte. J'ai reconnu sa voix. Quand il est revenu, il m'a demandé, comme si de rien n'était, « Ça va ?» Et il m'a sorti mes 500 francs et m'a dit, tiens, ton salaire de la semaine.
De retour dans ma voiture, je tremblais comme une feuille. J'avais les mains en sueur et du mal à respirer. J'ai roulé pour retourner chez moi. J'ai failli rentrer dans une voiture tellement j'étais choquée. Je suis rentrée chez moi, je suis directement allée dans la douche. Je me sentais sale. D'ailleurs, je le fais encore aujourd'hui. Je reste des heures et des heures sous la douche. Des fois, je mets de l'eau brûlante jusqu'à ce que ma peau devienne rouge tellement je me sens sale. Après ma douche, j'avais tellement une rage, je me sentais coupable. J'aurais aimé lui donner un coup de pied entre les jambes, le tuer, lui faire toutes les horreurs qui puissent exister, parce que ce qu'il m'a fait, c'est injuste. Je me sens coupable encore aujourd'hui de ne pas l'avoir fait. J'ai pris un couteau, je me suis taillé à l'avant-bras. Je suis pas suicidaire, mais c'était un moyen de m'en prendre à moi-même. Parce que j'ai pas pu lui faire ce que je voulais lui faire en tant que femme de caractère qui avait vécu un viol à 14 ans. Toute cette rage, je l'avais. Je l'ai défoulée sur moi. Et je le fais toujours. Ça fait un an que je suis en procédure pénale. Je dois tous les mois aller chez le psychiatre demander des antidépresseurs et des somnifères pour dormir. Je pleure comme une madeleine si je prends pas les médicaments. J'arrive pas à contrôler mes émotions. J'ai peur de faire des grands trajets sur la route. J'ai failli renverser 2 enfants parce que je suis tout le temps en guerre dans ma tête. Des fois, j'oublie même des choses. En fait, ça fait un an que je suis plus moi. La vraie moi, ma lumière, il me l'a éteinte. J'ai peur des hommes, surtout des vieux. J'ai l'impression de voir le mal partout et d'être devenue parano. Je parle pour protéger les femmes et surtout mes filles qui un jour seront des femmes. Je veux leur donner l'exemple d'une femme qui s'est battue. J'espère sincèrement qu'aucune autre femme ne se fera engager par ce patron. C'est un prédateur. Il est dangereux et en liberté.
Ras le viol !
Ras le viol ! Ras le viol ! Ras le viol !